Radio Prague, les informations.
Bonjour et bienvenue à l'écoute, Alexis Rosenzweig au micro pour le bulletin. Nous voici les titres. La Cour suprême rejette l'appel des auteurs de l'attentat raciste de Witkoff. Les cendres de Václav Havel seront déposées dans le caveau familial au début de la nouvelle année. Et puis les jeunes hockeyeurs tchèques ont battu l'équipe du Danemark en Coupe du Monde. La Cour suprême a rejeté l'appel de quatre agresseurs traduits en justice pour avoir incendié la maison d'une famille rome dans la ville de Witkoff en Moravie du Nord. David Vatsulik et Jaromir Lukesh ont été condamnés à 22 ans de prison. Václav Tsoyotsaru et Ivo Miller purgeront une peine de 20 ans de détention. Dans la nuit du 19 avril 2009, ils avaient jeté par les fenêtres de la maison de Witkoff des cocktails Molotov. Trois personnes à l'intérieur ont été blessées. La petite Nathalie, une fillette de 2 ans, a été grièvement brûlée sur 80% du corps. Elle n'a survécu que grâce à des soins extrêmement sophistiqués et ne se débarrassera jamais des séquelles de ses blessures. L'urne avec les cendres de Václav Havel ne sera pas déposée dans le caveau familial de l'ancien président encore avant la fin de l'année, comme prévu. Selon les dernières informations, la cérémonie n'aura lieu qu'au seuil de la nouvelle année. Dagmar Havlova, veuve du président défunt, a remercié ce mardi tous ceux qui partageaient son deuil. « J'aimerais remercier de tout mon cœur tous ceux qui sont venus rendre hommage à mon mari et m'ont soutenu au moment le plus difficile de ma vie. » C'est ce qu'on peut lire dans une déclaration de Dagmar Havlova. « Nous ne sommes jamais préparés au départ de la personne la plus proche et j'éprouvais une grande consolation en voyant que nous étions si nombreux à ne pas être préparés. » Fin de citation. Au cours des dernières décennies, le nombre d'enfants en Tchéquie diminue. Il y a 30 ans, il y avait sur le territoire de République tchèque 2,41 millions d'enfants de moins de 15 ans. Cette année, leur nombre a été inférieur de 880 000. C'est une diminution de près de 30%. Le nombre d'habitants total a pourtant augmenté. C'est un des résultats du recensement de la population réalisé en République tchèque en mars dernier. À cette date, la Tchéquie comptait 1 527 670 habitants de moins de 15 ans. Leur nombre a donc diminué de près de 8% par rapport à l'année 2001. Un festival du film iranien se tiendra à Prague du 12 au 15 janvier prochain. Les spectateurs du cinéma Svetozor pourront voir la création actuelle des cinéastes iraniens. Cet an dernier, le cinéma iranien a été primé à plusieurs festivals internationaux, dont Berlin, Venise, Moscou et Cannes. Au programme du festival Prague, il y aura entre autres le plus grand succès du cinéma iranien de la période intitulé Nader et Simin, une séparation du réalisateur Asghar Farhadi. Le film, qui a déjà remporté plusieurs prix internationaux, entrera également dans la distribution tchèque. Et puis du sport avec du hockey sur glace et l'équipe tchèque qui a remporté la victoire dans le premier match du championnat du monde des hockeyeurs de moins de 20 ans. Dans un match disputé à Edmonton au Canada, les Tchèques ont battu l'équipe du Danemark 7-0. Deux buts ont été marqués par Tomáš Hertl du club Slavia Prague. Dans la suite du championnat, les jeunes hockeyeurs tchèques affronteront ce jeudi l'équipe du Canada. La météo, avec un temps nuageux en République tchèque, il pleut ou neige à partir de 600 mètres. Les températures maximales s'échelonnent en pleine de 2 à 6 degrés. Voilà pour le bulletin. Dans une poignée de secondes, c'est la suite du programme en français avec Václav Richter. Et pour plus d'infos, c'est le site de Radio Prague. www.radio.cz. Il suffit ensuite de cliquer sur l'onglet français et pour nous écrire, c'est français@radio.cz, français@radio.cz.
Faits et événements en République tchèque.
70e anniversaire du début de l'opération Anthropoïde, ayant pour objectif l'attentat contre Reinhard Heydrich. L'artiste Roman Titz, condamné à un mois ferme pour avoir refusé de payer l'amende pour le relocage des feux piétons. Tels sont les thèmes de la première partie de notre émission. La suite sera réservée à notre rubrique Chapitre de l'Histoire, dans le cadre de laquelle nous vous présenterons la reprise d'une émission sur le sort d'une jeune fille juive pendant la Deuxième Guerre mondiale. Merci de rester avec nous et bonne écoute. Il y a tout juste 70 ans, dans la nuit du 28 au 29 décembre 1941, étaient parachutées sur le territoire du protectorat de Bohême-Moravie trois équipes de soldats chargées d'organiser un attentat contre Reinhard Heydrich. C'était le début d'une des opérations les plus courageuses de la Deuxième Guerre mondiale. En 1941, Reinhard Heydrich est un des hommes les plus puissants du Troisième Reich. Gouverneur du protectorat de Bohême-Moravie, il est aussi le chef de l'Office central de la sécurité du Reich et l'organisateur en chef du programme d'extermination des Juifs d'Europe. Son assassinat est donc considéré par le gouvernement tchèque en exil à Londres et même par le gouvernement britannique comme un acte d'une grande importance stratégique. Réaliser un tel exploit s'avère néanmoins extrêmement difficile. L'historien Michal Burian de l'Institut d'histoire militaire insiste sur le rôle qu'a joué la résistance civile dans cette opération dangereuse.
L'attentat contre Heydrich figure dans notre histoire comme l'exemple de la plus grande coopération entre l'armée et la résistance civile sur le territoire tchèque. Sans tous ces nombreux complices, sans ces centaines de résistants de la population civile et notamment de l'association Sokol, l'attentat contre Heydrich n'aurait jamais pu être réalisé.
L'assassinat du gouverneur du protectorat, qui devait entrer dans l'histoire sous le nom d'opération Anthropoïde, nécessitait une préparation détaillée. Michal Burian évoque les principales difficultés qu'il a fallu alors surmonter.
L'entraînement des parachutistes a été très difficile, mais il faut le dire, assez court. Il a été réalisé pratiquement sur tout le territoire de la Grande-Bretagne. Les parachutistes ont appris les choses les plus importantes dans des cours spéciaux en Écosse. Une des étapes les plus dramatiques de l'opération a été le parachutage sur le territoire du protectorat. Aujourd'hui, nous n'arrivons même pas à imaginer combien une telle opération était compliquée.
Et Michal Burian de rappeler que le protectorat de Bohême-Moravie se trouvait à la limite du rayon d'action des avions britanniques de ce temps-là. Trois équipes de soldats, Silver A, Silver B et Anthropoïde, ont été parachutées cette nuit-là en Bohême. Michal Burian souligne que le niveau de la navigation aérienne de l'époque était absolument incomparable à celle dont nous disposons aujourd'hui.
Les navigateurs de ces temps-là s'orientaient surtout d'après les étoiles. La situation dans la nuit du 28 au 29 décembre 1941 était d'autant plus problématique qu'il neigeait et tous les points d'orientation à terre étaient ensevelis sous la neige. Bien qu'il y ait eu une erreur de navigation, le navigateur a pris Prague pour Plzeň et les soldats ont été parachutés dans la proximité du village de Nehvizdy, près de Prague. Nous pouvons dire que c'était un petit miracle que l'erreur de navigation ait été si petite.
Après avoir atterri, les soldats Josef Gabčík et Jan Kubiš, chargés de réaliser l'opération Anthropoïde, réussissent donc à nouer des contacts avec le mouvement de résistance tchèque dont les membres les cachent et les aident à mener à bien leur projet. C'est aussi grâce à tous ces résistants anonymes que les deux héros finiront le 27 mai 1942 par blesser mortellement le gouverneur du Reich dans sa Mercedes découverte, le ramenant à son domicile près de Prague. Les représailles de l'occupant allemand seront terribles. Plus de 3000 personnes seront exécutées, les villages de Lidice et de Leja qui seront rasés et leurs habitants exterminés. L'opération Anthropoïde restera le seul attentat réussi contre un dignitaire nazi durant le Troisième Reich. Début décembre, l'artiste tchèque Roman Titz, membre du collectif de Hacker Storhoven, a été condamné à une peine de prison d'un mois pour avoir refusé de payer l'amende infligée pour le remplacement en 2007 des pictogrammes des feux piétons. Une peine démesurée selon beaucoup, mais qu'il entend bien purger. Anna Kubista.
D'une certaine façon, Roman Titz est, comme son pseudo l'indique, un romantique. Un jour, avant que ne soit rendu le verdict d'un mois de prison, il avait écrit une lettre ouverte à la juge chargée du dossier, l'appelant à démissionner si elle décidait de le condamner, alors même qu'elle aurait affirmé pendant la procédure que cette condamnation lui répugnait personnellement. Roman Titz est un romantique, car plutôt que de payer une amende qu'il estime injuste, il choisit d'assumer la prison. Certains y voient un geste bravache, d'autres y voient le courage d'une opinion. Rappel des faits, Pâques 2007, vêtu d'un bleu de travail, Roman Titz change jusqu'à 50 pictogrammes rouge et vert sur les feux de signalisation. Un bonhomme qui boit, un autre qui urine, un troisième auquel il manque une jambe, un pendu et bien d'autres variantes encore remplacent les personnages habituels. Roman Titz.
Vybral jsem si ten světelný signalizační systém jako prostor.
J'ai choisi le système des feux de signalisation comme un espace de comparaison avec le système de la société. Dans le système de signalisation, les bonhommes obéissent ou ordonnent. Moi, je leur ai donné l'occasion de s'affranchir et de libérer leur capacité de décision. Je voulais que les gens se rendent compte que même si on leur donne des ordres, ils ne sont pas obligés de les suivre aveuglément.
Très vite, les passants se rendent compte des changements effectués. Au lieu de susciter la panique ou des accidents, cette intervention dans l'espace public provoque plus sourire et intérêt. Roman Titz.
Réagovali spontánně jako nikdy předtím a nikdy potom, což znamená, že jsem...
Les gens ont réagi spontanément comme jamais auparavant et jamais depuis. Par la suite, je n'ai jamais eu autant de retours directs. L'art de rue ou street art est un porte-à-faux en concurrence avec les autres éléments commerciaux de type billboards, publicité, etc. Donc dans ce contexte, il est rare de parvenir à attirer l'attention du spectateur.
Takže málo kdy se vlastně povede upoutat tu pozornost toho obyčejného diváka.
Condamné à payer des dommages à hauteur de 80 000 couronnes, Roman Titz doit alors également débourser 60 000 couronnes d'amende. L'artiste règle sans barguigner les frais en question, mais question de principe, il refuse de donner une couronne pour l'amende, ce qui lui vaut le tout dernier procès.
Mně bylo 15 let, když byl rok 89 a v tu dobu člověk...
J'avais 15 ans en 1989, au moment de la révolution de velours. D'une certaine façon, avant, je ressentais la pression du régime communiste qui, avec ses moyens de pression, forçait les citoyens à être loyaux. Il les obligeait de la manière la plus simple. En raison de leur comportement, en contradiction avec le système, les citoyens avaient le choix, soit collaborer avec le régime, soit aller en prison. Aujourd'hui, nous vivons dans un système qui, en apparence, est différent. Mais d'un autre côté, les gens ne réalisent pas ce qu'ils sacrifient au système. De nos jours aussi, on recherche plus son confort quotidien, et pour cela, il faut être loyal. Cela veut dire accepter les principes de notre société qui, comme autrefois, étouffe les individus.
V dnešní době, tak jako tehdy, potlačujou individualitu jedince.
Rebelle à la marche de la société actuelle, Roman Titz veut pourtant croire à un système dans lequel il vivrait, comme il le rappelle dans sa lettre ouverte. Il affirme toutefois ne pas pouvoir croire à un système porté par des personnes comme le juge, qui l'a condamné en première instance, aujourd'hui poursuivi pour corruption. Pour toutes ces raisons, Roman Titz est bien décidé à purger sa peine. Pas anarchiste, Roman Titz, juste inquiet des dérives de la société, comme le montrent les différents projets du collectif Storoven.
Je n'ai pas d'idée sur la manière idéale dont doit fonctionner le système. Je sais juste qu'à l'heure actuelle, je ne trouve pas que ce système soit idéal et je pense qu'il faut y réfléchir sérieusement. Et ce, même avec des démarches qui ne soient pas de simples gesticulations. Afin que ma création et mon positionnement par rapport à la société ne soient pas un geste vidé de son sens, je dois aller en prison. Je veux porter la responsabilité de mes actes dans le cadre de notre système de valeurs, afin que les gens, à travers moi, aient la possibilité de juger le système et de se rendre compte de son absurdité.
Voilà, et à l'heure actuelle, Roman Titz attend toujours l'exécution de sa peine.
C'était donc l'artiste tchèque Roman Titz, interrogé par Anna Kubišta. Vous êtes toujours sur Radio Prague, émission en langue française. Et c'est l'histoire d'un choix. Un choix qui a sauvé la vie d'une jeune fille juive pendant la Seconde Guerre mondiale. Un choix qui lui a permis de vivre alors que ses sœurs, elles, ont connu un destin tragique. Un choix fait par une mère qui n'est pas sans rappeler le fameux choix de Sophie dans le roman de William Styron. Cette histoire, c'est celle de Zuzana Ledererova, un destin qui fait revivre Yulita Matyashova, une jeune journaliste passionnée. Plus de détails avec Anna Kubišta dans la reprise d'une émission que nous avons diffusée pour la première fois le 16 février 2011.
Chapitre de l'histoire.
C'est un peu par hasard que Judita Matiashova a rencontré Zuzana Lederova dans le cadre d'un projet organisé dans les écoles intitulé Zmezali Sousede, incitant la jeune génération à rechercher les personnes disparues dans leur proche voisinage pendant la guerre. Les élèves de l'école primaire de Velki Beranov enquêtent sur le destin d'Elena Bemova, disparue dans les camps nazis. Judita rédige un article sur la jeune femme juive dont les enfants ont retrouvé une photographie réalisée juste avant son départ en 1942. Une photographie qu'elle n'ira jamais chercher et qui, grâce au travail des enfants, a pu être restituée à sa cousine près de 70 ans après. Car en effet, Zuzana Lederova reconnaît tout de suite dans l'article de Judita sa cousine Helena, comme elle, originaire de Yerlava et dont elle découvrira le destin tragique après la guerre. Car Zuzana, elle, contrairement au reste de sa famille, entièrement décimée, a survécu par miracle et c'est cette histoire incroyable que Judita souhaite faire connaître aujourd'hui.
À ma plus grande surprise, j'ai découvert qu'il en avait réchappé par un concours de circonstances. Elles étaient trois filles dans la famille. Zuzana était la cadette. Sa mère avait eu vent de la possibilité de cours sionistes pour les enfants juifs qui leur permettaient de partir en Palestine.
À cette époque-là, Zuzana a 15 ans. Sa mère décide donc de l'envoyer à Prague, alors que dans sa ville d'origine, Yerlava, l'atmosphère est délétère et les conditions de vie au quotidien pour les Juifs deviennent invivables. Judita Matiashova.
Au début, le sionisme était considéré en pays tchèque plutôt comme un mouvement de jeunesse, sportif, avec un accent sur la culture juive, un peu comme les Sokol en fait. Mais au vu de l'évolution de la situation en Tchécoslovaquie occupée, il a fallu beaucoup plus préparer les enfants à partir pour la Palestine. C'est un cours préparatoire de ce genre que Zuzana a fréquenté à Prague. Elle a commencé en 1939. Sa mère n'a pu envoyer qu'elle parce que le nombre de places était limité. À Prague, il y avait en tout 70 enfants de toute la République tchèque. La moitié venait des Sudètes, l'autre moitié de Prague et des environs.
Seuls les plus chanceux donc bénéficient de ces cours qui vont leur sauver la vie. L'aspect financier joue un rôle aussi. Les cours sont chers, ce qui restreint encore plus les possibilités d'y participer. Une partie de l'argent déboursé par les parents servira en effet à payer les nazis afin que ceux-ci permettent au groupe de jeunes de partir. En attendant, avant le départ pour le Danemark, les cours se déroulent près de l'ancienne gare de Tieschnov, aujourd'hui disparue. C'est le mouvement sioniste qui organise à la fois les cours et l'apprentissage pratique. En 1939, les enfants sont envoyés dans les montagnes Orletske Hore, dans un petit village.
Là, ils apprennent le travail agricole et aident les fermiers. La plupart de ces enfants venaient de la ville. C'était pour eux quelque chose de nouveau de travailler au champ. Mais la plupart ont aimé cette étape. Ils avaient entre 14 et 16 ans. C'était la condition de base pour pouvoir partir en Palestine, de même qu'une préparation au travail agricole.
La situation intérieure et internationale devient toutefois de plus en plus compliquée. En plus de l'occupation de la Tchécoslovaquie par les nazis, la guerre éclate et il est temps pour les enfants qui suivent les cours sionistes de partir. Le mouvement Youth Aliyah, qui œuvre alors pour faire sortir des juifs de l'Allemagne nazie, demande au Danemark d'accueillir des enfants. Le gouvernement finit par accepter d'en héberger environ 600 venus de toute l'Europe, dont les jeunes venus de Tchécoslovaquie. Parmi eux, Zuzana et son futur époux, Arnošt Lederer. Au Danemark, ils sont pris en charge par la Ligue féminine pour la paix et la liberté qui répartit les enfants dans des familles. Judita Matiashova.
Parler de famille reste toutefois une notion très relative. En effet, d'après ce que j'ai pu lire, ou bien encore dans le cas concret de Zuzana, celle-ci a été placée dans une famille sans enfants et elle a été victime d'attouchements sexuels de la part du mari dès son arrivée. Donc cet accueil dans les familles était loin d'être idyllique dans beaucoup de cas. Zuzana, pour sa part, a demandé à être transférée dans une autre famille. Dans le cas des garçons, ils ont en général été envoyés travailler à la ferme, tandis que les filles sont restées dans les villes et aidées aux travaux ménagers des familles. Les garçons, eux, travaillaient sans honoraire, bien entendu.
« Si le départ de la Tchécoslovaquie les sauve d'une mort certaine, les jeunes se retrouvent toutefois dans le rôle de main-d'œuvre pas chère au Danemark. En 1940, le pays est envahi et occupé par les armées du Troisième Reich, mais la présence des nazis est plus prudente sur place. En tout cas, la pression n'est pas aussi radicale que dans d'autres territoires occupés. Les enfants reçoivent toutefois une lettre de la Ligue féminine les enjoignant à se tenir prêts à partir à n'importe quel moment. 3-4 enfants de Tchécoslovaquie parviennent encore à partir pour la Palestine. Les autres sont envoyés dans des endroits isolés au Danemark, loin du danger que représente la ville. En 1943, la police danoise les prévient qu'ils doivent partir en Suède.
Dans le cas de Zuzana et de son futur mari Arnošt, celui-ci avait une sœur qui était au Danemark enceinte. Ils ont fui tous les trois alors que la sœur d'Arnošt était au 9e mois grâce à des bateaux de pêcheurs. Ils ont donné tout leur argent pour qu'un pêcheur les cache dans un local à poissons. Au lieu de se rendre en Suède en 30 minutes, le trajet a duré des heures car le bateau a fait tout pour éviter les patrouilles. En partant ainsi pour la Suède, ils ont perdu tout contact avec ceux qui est considéré comme leur famille. Une dizaine de camarades issus du groupe qui ont remplacé en quelque sorte les familles qui étaient loin et dont ils n'avaient aucune nouvelle.
Après la guerre, Arnošt et Zuzana retournent en Tchécoslovaquie. Là, ils découvrent l'ampleur du massacre. Tous les membres de leur famille ont disparu dans les chambres à gaz et les deux jeunes gens n'ont plus rien. Ils décident donc de retourner au Danemark où, malgré tout, ils ont forgé des attaches. Le putsch communiste de 1948 les en empêchera et ils resteront en Tchécoslovaquie. Aujourd'hui, Judita Matiašová s'efforce de collecter tout ce qu'elle peut sur ces cours sionistes qui ont sauvé la vie de dizaines d'enfants juifs. Son objectif, écrire un livre, monter une exposition, tourner un film qui devrait paraître en DVD, mais aussi faire en sorte que Zuzana et Arnošt puissent peut-être retrouver certains de leurs amis perdus de vue dans le tourbillon de la guerre et des fuites. Judita Matiašová a également créé un site web grâce auquel elle veut faire connaître l'histoire de Zuzana et celle de tous ces jeunes, une histoire faite de courage et d'abnégation. Plus d'informations au http://sophieschoice.webgarden.cz.
C'était donc l'histoire de Zuzana Lederová que nous avons pu connaître grâce à la jeune journaliste Judita Matiašová. Merci de votre attention et de votre fidélité à Radio Prague. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos programmes sur www.radio.cz/fr.